Michel Denisot, un podcast Europe 1.
Juliette Binoche, merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes une icône pour les jeunes actrices en devenir. Quelles étaient vos icônes? Quelles sont les icônes qui ont compté dans votre vie, qui font ce que vous êtes aujourd'hui?
Alors, les icônes, en tout cas, c'était le théâtre, moi, qui m'avait marqué quand j'étais petite et quand j'étais jeune actrice.
Très tôt, ouais.
À 14 ans, j'avais vu un spectacle de Peter Brook et les acteurs de Peter Brook qui venaient des quatre coins du monde et qui parlaient tous avec un accent et qui arrivaient à s'unir à travers une œuvre que Peter Brook avait mis en scène. Et puis, les spectacles de Strehler aussi. Italien, très vivant, la Commedia dell'arte, et très joyeux et avec des mouvements dans tous les sens. Et voilà, c'est deux spectacles, je dirais, qui m'ont vraiment attiré, eu envie de, plus qu'un acteur ou une actrice, c'est plus une ambiance et une sorte de joie commune.
Vous avez très tôt côtoyé les plus grands réalisateurs, que ce soit Godard, Doyon, etc., Téchiner, et ce sont des références, des icônes pour vous. Et vous dites qu'il n'y a pas d'acteurs qui sont des icônes pour vous, pas d'actrices non plus?
Alors Godard, j'étais très impressionnée d'être face à lui. C'était une icône, évidemment, ça l'est toujours, mais dans mes yeux de jeune actrice, j'étais impressionnée et assez intimidée. Et j'ai appris très tôt à ne pas attendre que les choses soient résolues par le metteur en scène, c'est-à-dire de préparer en avance pour être prête à m'adapter à toute situation.
Vous preniez un peu la main sur les réalisateurs? Vous m'avez dit une fois, quand je passe un casting, c'est pas moi qui le passe, c'est celui qui est en face.
Alors, dans un sens, oui, parce qu'il faut savoir retourner sa peur. C'est comme quand on ne sait pas répondre à une question, il vaut mieux poser une question en retour, comme ça on est sûr qu'on a un peu de temps pour réfléchir. En tout cas, il y a cette idée de... C'est un challenge de jouer, et comme de mettre en scène. Donc on est tous embarqués dans le même bateau, et c'est à chacun de... trouver cette espèce de synergie qui doit y avoir dans la création, parce que c'est un endroit où on doit s'oublier, c'est un jeu. Jouer, c'est s'oublier d'abord. Pour moi, c'est quand le metteur en scène et l'acteur s'oublient, c'est le meilleur endroit, c'est le meilleur moment, parce que c'est l'œuvre qui doit jaillir. C'est cette relation, c'est ce qui se passe entre nous, qui est indicible, qui est intouchable, qui est incommensurable. C'est une espèce d'invisible qui fait que quand le spectateur voit le film ou la pièce de théâtre ou l'œuvre, disons, toute forme artistique, elle permet en fait de voir quelque chose qui n'est pas palpable. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà.
Est-ce que vos parents sont des icônes pour vous? Vos parents sont artistes.
Sont artistes, oui, un enfant. Son parent, même si tout n'est pas lisse et parfait, sont des icônes quand on est enfant. Ils sont des références. Ils l'ont été. Je parle au passé parce qu'à un moment donné, on dépasse. Et puis, ses parents, ça devient son père. Il y a des mères spirituelles ou des pères spirituels. Il y a des personnes qui vous poussent et qui deviennent vecteurs, qui vous embarquent vraiment comme une vague, comme l'ont été ses parents. Mais la confrontation aux parents fait aussi que ça fait une vague inverse aussi, et qui est aussi importante, parce que des mouvements intérieurs, il doit y en avoir pour se dépasser, pour changer, pour se transformer, parce que l'idée de la vie, c'est quand même d'une transformation.
Vous êtes l'actrice française la plus primée, une des plus primées dans le monde. Vous avez gagné partout, à Venise, à Berlin, à Los Angeles, à Paris, évidemment. Quand vous débutiez, est-ce que vous aviez quand même une référence d'actrice? Il y a quand même une actrice qui vous...
Mais l'actrice qu'on devient ou qu'on est, c'est une partie de soi, en fait. Mmh. Et c'est faire face à sa propre vérité. C'est pas extérieur, c'est vraiment une connaissance, c'est une rentrée en soi, une descente en soi qui permet de se dépasser et de pouvoir travailler un texte, une idée, une sensation. Enfin, c'est après que j'ai vu... Évidemment, j'avais vu plein de films et du théâtre, surtout adolescente, puisque je venais en vacances à Paris il m'arrivait de passer un mois, j'habitais en province,
dans le Loir-et-Cher, ouais.
et donc j'allais voir 2-3 films par jour. C'est une espèce d'envie d'en voir.
Mais qui vous faisait envie?
Qui me faisait envie? Mais c'est ma mère, en fait, ouais. Qui me disait, sur le Pariscope ou l'Officiel des spectacles, je ne sais plus lequel c'était, l'un ou l'autre, il y avait une croix sur tous les films que je devais aller voir. Donc, J'allais voir, j'étais très obéissante parce que je trouvais que ma mère était inspirante.
Et à un moment donné, vous êtes identifiée à une actrice ?
Non, pas tellement. C'est après, en fait, que j'ai reconnu dans Liv Ullmann, chez Anna Magnani, chez Gina Rowlands, des femmes à la fois liées avec une écriture cinématographique, avec des metteurs en scène la plupart du temps, et avec une indépendance de jeu et qui ont leur propre rythme et leur passion propre. Ouais.
Vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs. Est-ce qu'il y a un réalisateur ?
Il y en a toujours des plus grands, grands. C'est difficile de quantifier ça.
Non, mais c'est éblouissant la liste avec des réalisateurs avec lesquels vous avez tourné.
J'ai eu beaucoup de chance, ouais. C'est vrai qu'il faut, aussi, il faut être prêt. Ouais. Il faut être prêt au moment où ça se passe.
Vous avez dit non à Spielberg quand même deux fois.
Trois fois.
Trois fois, ouais. Ouais. C'est un luxe inouï, quoi.
Je ne sais pas si c'est un luxe. C'est comme ça la vie. Et il faut savoir ce pourquoi on est fait. Et reconnaître là où on doit poser ses oui, finalement. Je crois qu'il faut le voir comme ça. Plus, on n'est pas fait pour tout faire. Mais de reconnaître là où son âme est nourrie, là où on peut évoluer, là où on peut donner le meilleur de soi, finalement. Et c'est vrai que la chance que j'ai, c'est de pouvoir... par exemple, je retourne avec Claire Denis à la fin de l'année, là. Et c'est le troisième film avec elle. Et je suis... vraiment heureuse parce que je trouve que chez elle, il y a une écoute quand elle filme, elle aime. Elle filme avec amour. Et ça, pour moi, c'est pas un savoir-faire. C'est vraiment quelque chose qui vient d'elle. Là, ça me passionne parce qu'il y a une... j'ai envie de savoir de quoi elle a soif, de quoi elle a envie. Et puis, quand elle cherche sur le tournage, elle cherche le cadre et elle ne sait pas. Et elle est en train de le reconnaître, de voir vraiment... ce dont elle a besoin pour raconter l'histoire. Et ça, je suis à chaque fois émerveillée et émue de voir quelqu'un chercher.
Quand vous êtes amoureuse d'un homme, est-ce que ça devient une icône ?
Long silence. Ben oui, les premiers mois, quoi, la première année. J'ai cru en tout cas à chaque fois.
Ouais.
À chaque fois, j'ai cru que c'est bon. Et... je ne sais pas si c'est icône. Une icône, ce n'est pas la représentation, c'est ce qu'il y a derrière, en fait. Hein. C'est, une icône, ce n'est pas une image. C'est, parce que sinon, ce serait une projection. Mais c'est quelque chose qui est derrière et qui provoque un mouvement. Pour vous raconter une petite anecdote et un petit secret que je n'ai pas encore dit, puisque votre émission s'appelle « Icône », quand je suis allée voir le pape il n'y a pas très très longtemps, on m'a offert une petite icône de Roublev, du Christ. C'est un détail absolument merveilleux. Enfin, en tout cas, l'image est passée parce qu'elle est très ancienne, mais elle m'a vraiment émue parce que c'est un regard de présence qui est rare. Et quand je me balade un peu partout, quand je voyage, moi j'ai mes petits secrets qui sont avec moi. Et il y a cette petite icône qu'on m'a offerte et qui a été bénie dans une église orthodoxe en Russie. Et c'est une petite icône en fait qui est avec moi dans mon sac. Et je l'ai fait signer par Annick de Souzenel, que j'admire beaucoup, qui est une exégète qui a retraduit la Bible, par le Père Martin qui a Saint-Michel Uvar, par Marguerite Cardoz qui est spécialiste des Sumériens et des dialogues avec l'ange. Bref, je l'ai fait signer à des personnes qui sont pas des icônes, mais enfin des personnes très, très vivantes dans ma vie et dans mon âme, on va dire. Et j'avais envie de le faire signer par le pape François. Et donc, je lui ai demandé, il l'a signé. Et à la fin, il l'a retourné après l'avoir signé. Il a vraiment regardé dans les yeux et il lui a donné un smack dessus, un gros bisou. Et c'était comme béni par lui. Et c'est vrai que ça compte. Là, l'icône, elle devient vivante parce qu'elle est marquée par une histoire, ce tour-là.
Cette rencontre avec le pape n'était pas une démarche de croyante catholique au départ.
Je ne suis pas catholique, mais j'ai été élevée catholique.
Oui, tout à fait. Et c'était donc pour une démarche pour sensibilisé, écologique pour savoir ce que pensait le pape. S'il pouvait...
Oui, parce qu'il a écrit ce merveilleux livre qui s'appelle Laudato si, ouais. et qui, il a d'ailleurs été aidé par des personnes qui travaillent avec lui au Vatican pour raconter un petit peu ce qui se passe sur l'écologie et l'urgence de changer notre façon de vivre et de faire, parce que le changement climatique est dramatique et il faut agir. Ouais. Et aussi en relation avec les pauvres. Parce que le pape François a quand même cette différence. En tout cas, il a appuyé vraiment sur cette urgence à faire attention à ceux qui sont les plus démunis.
Est-ce qu'il y a une icône pour l'écologie ?
Alors, il y a la jeune icône Greta Thunberg, évidemment. Et puis, il y en a d'autres aussi. Je pense à Marie-Monique Robin, avec qui je suis embarquée sur un documentaire. Je l'admire énormément. Elle a fait, par exemple, Le Monde selon Monsanto. Elle a fait une trentaine de documentaires. C'est une journaliste d'investigation qui est extrêmement... Elle est tenace. Elle va au bout des choses. Elle fait les choses très sérieusement, en parlant à des scientifiques pour prouver vraiment tout ce qu'elle veut démontrer dans ses films. Et récemment, je l'ai rencontrée et c'est une personne importante, je trouve, par rapport à ce changement. Déjà d'être en phase de la réalité, de réaliser ce qui se passe dans notre vie industrielle et de consommation.
Alors dans les icônes que vous citez, qui sont en fait un peu l'équivalent d'Amour de la vie, il y a très peu de gens de cinéma.
Pour moi, la vraie icône, c'est le désir de vérité. Donc, de n'importe quelle forme. C'est comment se donner à une chose. Ça peut être un boulanger qui donne le meilleur de lui-même dans son pain, ou quelqu'un qui fait un meuble, le meilleur de lui-même dans un meuble, et c'est la beauté du meuble, ou comment il s'investit, ou comment... C'est ça, pour moi, les vrais êtres iconiques, comme on dit en anglais. Hein. C'est vraiment des personnes qui se donnent à fond en s'oubliant. Et les artistes, il y en a qui se donnent comme ça. Et d'ailleurs, le plus beau de l'art, c'est quand on voit un chanteur ou un musicien se donner, c'est qu'il est dans la musique. Ou un danseur, il est pas dans le mouvement qu'il fait, mais il est au-delà du mouvement. Il fait le lien entre un monde et un autre monde. Alors ça peut être celui, le public et la scène, mais ça peut être aussi l'invisible et le visible, entre le palpable et l'impalpable. Ça peut être, on peut le décrire comme on veut. Ouais.
Et dans la musique ? Vous n'avez pas d'icône ?
Dans la musique, je n'ai pas un goût spécifique. Je peux aussi bien admirer du classique que du jazz, que j'écoutais du Clash avec ma fille hier. Et quand c'est vraiment donné et joué, ouais, je suis avec. Moi, j'ai envie d'être embarquée, finalement. Là. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Dernière question, est-ce que vous êtes l'icône de vos enfants? Il faut qu'ils dépassent l'icône parce que... C'est important, en plus, quand il y a un parent qui est connu, qui est reconnu, c'est important que, et on en a parlé d'ailleurs avec ma fille, pas plus tard qu'hier soir, c'est que faut pas désirer le succès, il faut désirer l'art, il faut désirer cette vérité en nous que reflète l'art. Et cette presque impossible à attraper, mais qui nous attire toujours et qui nous fait aller toujours plus loin. C'est cette tangente, cet oblique-là, qui nous relie nous, matière, vers quelque chose de plus grand. J'appellerais lumière parce que ça nous donne de la vie, parce qu'on a le soleil en face et que parfois on oublie de le regarder. Enfin là, il a fait quand même très très chaud l'été dernier. On ne peut plus l'oublier maintenant.
Merci beaucoup.
Merci.
Icône est un podcast Europe 1 présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Reich. Programmation, Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes habituelles.